Bonjour à toutes et à tous. On va donc recommencer aujourd'hui avec le deuxième cours de cette série portant sur l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. Et aujourd'hui, donc, on passe à un sujet plus précis que la dernière fois, quand on avait donc vu un peu large. Et aujourd'hui, donc, notre sujet, c'est les empires musulmans et notamment ce qu'on a appelé parfois les empires musulmans de la poudre à canon. Et alors, donc, on va tâcher de voir pourquoi cette histoire de la poudre à canon et on va effectivement donc traiter un ensemble de cas et d'espaces en commençant dans la Méditerranée, en allant jusqu'en Asie du Sud et en traitant aussi un peu mais de passage à l'Asie centrale. Ce sujet nous amène aussi à, comme d'habitude, des considérations historiographiques d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais donc commencer, comme d'habitude, avec mon PowerPoint. Voilà, donc, il faut, comme c'est toujours mon habitude, commencer avec un peu de géographie, avec des cartes. Et là, vous voyez qu'il y a en effet trois États qu'on va traiter. L'État de la famille, la dynastie d'Osman, ce qu'on appelle donc l'Empire ottoman, qui, ici, vous voyez en rose. Puis, il y a les Safavides d'Iran, au milieu de cet ensemble, et enfin, sur le versant oriental de cet ensemble, vous aviez les Moghols, ou ce qu'on appelle aussi les Timurides, qui étaient donc les souverains de l'Inde pendant assez longtemps. Alors donc, pourquoi est-ce que on a traité et qui a traité d'ailleurs ces empires comme des empires de la poudre à canon? C'était déjà connu que c'était commode de mettre ensemble ces trois empires parce que manifestement il y avait des aspects en commun. Si vous regardez par exemple tout simplement l'histoire monétaire, il y a ces trois pièces, des pièces en argent, frappées par ces trois États, l'Akçe ottoman, qui était d'ailleurs la plus petite, puis l'Abbassie des Safavides, surtout au XVIIe siècle, et finalement, ce que vous voyez à droite, la Roupia des Moghols. D'ailleurs, c'est un mot assez curieux car ce n'est pas un mot arabo-persan, c'est un mot hindi qui a été donc adopté tout d'abord par les Afghans et par la suite les Moghols ont aussi continué cette tradition. Et si vous regardez ces trois pièces, vous voyez qu'il y a quand même des aspects, ils ont un visage assez semblable. Ils ont utilisé parfois les mêmes formules. Ils ont aussi parfois utilisé les mêmes citations coraniques et ainsi de suite. Donc, il y a quand même, disons, une ressemblance de famille quelque part. Et on sait d'ailleurs que depuis le XVIe siècle, si on regarde les écrits des Européens, souvent, ils vont mettre ces trois États ensemble. En parlant, par exemple, si on regarde les Portugais, on parle du Grand Turc ou Grand Turco, le Grand Sofi ou Grand Sofi, qui est le Safavide, et puis au Grand Mogor, le Grand Mogol de l'Inde. Donc, c'était toujours une espèce de trio qu'on mettait ensemble dans un certain type de réflexion sur l'autre musulman par rapport au soi européen. Mais cette idée de caractériser ces États par le biais de la poudre à canon, c'est beaucoup plus récent. Et en fait, ça remonte jusque dans le milieu du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle. Et celui qui a proposé cette caractérisation, c'est Marshall Hodgson, donc dans un ouvrage qui a beaucoup marqué surtout le monde anglophone, The Venture of Islam, en trois volumes, dont le troisième volume, vous voyez ici, a pour titre The Gunpowder Empires and Modern Times, donc les empires de la poudre à canon et les temps modernes. Alors, ce livre n'a pas été traduit en français. Il y a un autre livre de Hodgson, que vous voyez ici, L'Islam dans l'histoire mondiale, qui a été donc publié dans la série des Actes Sud. Juste pour vous donner une petite idée du point de vue de M. Hodgson, je vous cite un compte-rendu qui a été fait de ce livre. Et dans ce compte-rendu, Marie-Lucie Dumas nous dit effectivement que l'auteur, donc Hodgson, c'est un professeur d'histoire de l'Université de Chicago, et il est probablement l'un des rares chercheurs occidentaux à se placer dans une perspective non européocentrique pour parler de l'histoire de l'islam et de son apport à l'histoire mondiale. Donc, il fait quoi? Il tente d'étudier la civilisation islamique comme un tout historique et comme un élément majeur dans la formation de la destinée de toute l'humanité. C'est un point de vue, c'est-à-dire l'histoire islamique en tant qu'histoire mondiale ou histoire globale, qui a été suivie par un certain nombre d'autres chercheurs par la suite. Alors donc, Hodgson avait donc un point de vue sympathique plutôt qu'un point de vue hostile, qu'on trouve d'ailleurs chez un certain nombre d'autres chercheurs occidentaux qui ont abordé la question de l'histoire des pays musulmans. Mais il faut dire que Hodgson avait quand même un point de vue centré sur le Moyen-Orient, qu'il connaissait relativement bien, un peu l'Asie centrale. Il n'était pas tellement donné sur l'Asie du Sud ou l'Asie du Sud-Est. Il connaissait beaucoup moins ces régions-là. Et d'ailleurs, on trouve parfois des idées chez lui qui sont difficilement soutenables, dans le genre qu'il y avait, là, vous voyez, l'absence d'ordre hiérarchique dans ce monde, tandis qu'on sait que dans le cas de l'Asie du Sud, la coexistence des sociétés hiérarchisées, hiérarchiques, et l'islam était tout à fait compatible. Et d'ailleurs, c'est parmi les caractéristiques de cette région-là. Mais il a cette idée, et c'est l'idée importante, que si on est en gros entre le 15e et le 18e siècle, les temps modernes, avant la grande poussée de la colonisation européenne du 19e siècle, des Britanniques, des Français et ainsi de suite. Alors donc, à cette époque-là, on a une formation, pour dire mieux, une réformation de ces sociétés musulmanes en tant que système politique et ce processus a beaucoup à voir avec une nouvelle technologie qui est la technologie de la poudre à canon. Donc, comme vous le savez sans doute, la poudre à canon qui a été d'abord inventée en Chine, puis qui a traversé l'Eurasie, a été adoptée par la suite dans la partie occidentale de l'Eurasie et par les Européens et par les musulmans. Alors donc, pour une considération plus en détail de la carrière de ces trois États, de ces trois systèmes, je vais donc commencer avec les Ottomans. Et pourquoi? Tout simplement parce que les Ottomans avaient une carrière qui était plus longue par rapport aux deux autres. Les Ottomans, en fait, les débuts de cette dynastie, c'est vers la fin du XIIIe et surtout le début du XIVe siècle. Il y a deux personnages donc assez compliqués qui sont mentionnés. Il y a donc Ertugrul. On sait presque rien sur lui d'un point de vue historique, même s'il est il est le sujet de beaucoup de séries télévisées. Et puis, il y a Osman qui a donné son nom à la dynastie, mais en fait, là encore, on ne sait pas grand-chose de lui, qui a régné manifestement sur une principauté des Turcs dans l'Anatolie, une principauté qui a donc émergé dans le contexte du déclin du sultanat des Seldjouks et qui était donc aussi présent dans les marges de ce qui restait encore de l'Empire byzantin. Et donc, au XIVe siècle, l'Empire byzantin était assez affaibli et c'est dans ce contexte-là qu'on a cette principauté. Et puis, donc, il y a eu expansion. La principauté se transforme en royaume. Le royaume va donc faire la conquête, vous voyez, dans les couleurs différentes, dans l'Anatolie et puis dans la Roumélie au XIVe siècle. Au tout début du XVe siècle, il y a un choc, une lourde défaite que ce royaume va encaisser. Puis, au XVe siècle, on va recommencer l'expansion et c'est au cours du XVe siècle que donc, le royaume devient empire. Donc, on passe les trois étapes. Tout d'abord, principauté, puis royaume, puis empire. Donc, à la fin du XVe siècle, une fois qu'on a fait la conquête de Constantinople, on est en train de parler d'un empire, un empire qui est en pleine expansion. Cette expansion va continuer pendant le XVIe siècle, en couleur de rose, vous voyez ici, en Europe centrale, en Europe de l'Est, et aussi autour de la mer Noire, et finalement, et c'est, ça c'est le plus important, dans les pays arabes, Syrie, Liban, Irak, Hijaz, l'Égypte, et finalement aussi un peu le Maghreb. Voilà, donc un processus assez compliqué, et donc du coup, on est en train de parler de système qui remplit, si vous voulez, tous les aspects de la définition qu'on a discuté la dernière fois. On a taille, on a diversité écologique, on a diversité de population, on a beaucoup de langues parlées, on a aussi plusieurs religions présentes qui sont donc plus ou moins tolérées par les Ottomans, à une exception près, c'est-à-dire les Ottomans, normalement, ne sont pas très tendres envers les chiites. Même s'il y a parfois des populations chiites, mais ils ont des problèmes avec les chiites et aussi les alawites qui sont donc plus ou moins apparentés aux chiites, car la dynastie ottomane est une dynastie sunnite. Alors, donc, pour le lecteur francophone, on a beaucoup, beaucoup de matériaux sous la main pour ceux qui ont envie d'étudier cette dynastie. Je vous donne juste deux exemples. À gauche, vous aviez donc l'ouvrage sur la direction de Robert Montrand, Histoire de l'Empire ottoman, qui donne un bilan. Je dirais que c'est un ouvrage plutôt traditionnel dans sa conception, mais il y a plusieurs grands noms des études ottomanes dans le monde francophone qui sont présents. Montrant André Raymond et ainsi de suite. Et puis, juste pour vous donner un autre exemple, vous aviez ici un ouvrage posthume de notre collègue Gilles Bernstein, qui a été donc le professeur de l'histoire ottomane au Collège de France et qui lui était donc spécialiste surtout du 16e, mais qui a aussi traité le 15e et un peu le 17e siècle. Il était quelqu'un qui était un grand travailleur d'archives. Et il a fait de l'histoire diplomatique, un peu l'histoire économique, certainement l'histoire de la culture politique et ainsi de suite. Donc, en fait, on est gâté si on commence à regarder l'historiographie en français portant sur les Ottomans. Et alors, si on regarde cette historiographie, si on considère la chronologie qui est proposée dans cette historiographie, là, vous voyez en gros, dire cinq phases, les origines et essor, donc disons en gros à partir de 1320, 1330 jusqu'en 1500, cette première époque est marquée entre autres par la prise de Constantinople et la défaite finale des Byzantins. Il y a aussi un peu disons, synthèse, parce que il y a des femmes de la famille byzantine qui vont se marier dans la famille ottomane. Donc, les Ottomans deviennent en quelque sorte aussi les successeurs des Byzantins. Puis, on a ce qu'on appelle normalement l'apogée de l'Empire au XVIe siècle, associé souvent avec le sultan Selim, qui était celui qui a entamé cette expansion du début du siècle. Et puis, surtout, celui qu'on appelle Soliman le Magnifique, mais en fait, en turc, plutôt Suleyman le législateur, qui a régné presque 50 ans. Et donc, c'est une époque à laquelle on a consacré beaucoup d'attention. Et puis, on passe au 18, 17e, 18e, qui était considéré naguère comme une époque de déclin. Mais aujourd'hui, on a plutôt tendance de penser à ça comme une époque de réorientation associée avec un certain nombre de crises. Vers la fin du XVIIe siècle, l'expansion va plus ou moins s'arrêter. Il y a des traités signés avec un certain nombre de voisins. Et puis, donc, le 19e, quatrième phase, où il y a ce moment de la Tanzimat, ou la réforme. Et finalement, donc, vers la fin du 19e siècle, on commence le démembrement et la fin de l'Empire qui va donc se faire avec la Première Guerre mondiale, donc autour de 1918-20 par là. C'est la fin de l'Empire. Donc, un empire qui a perduré pendant à peu près 6 siècles. Et donc, c'est certainement pas un record absolu, mais parmi ces empires musulmans, il y en a peu qui ont donc eu cette espèce de carrière de 6 siècles. Alors, pour la question donc de l'historiographie des débuts, je vais passer en revue assez rapidement quelques éléments, en commençant donc avec le livre qui est donc de l'historien autrichien Paul Wittek, qui puis a aussi travaillé au Royaume-Uni. Wittek, qui a beaucoup influencé l'historiographie de la première moitié du XXe siècle, avec une thèse qui portait sur deux, trois idées, aujourd'hui hautement discutées et mises en question par les historiens plus récents comme Colin Haywood. Alors donc, Wittek, qui lui avait une idée assez spécifique de l'Empire ottoman, il pensait que c'était donc les Turcs, ces Turcs qui ont formé l'Empire, ont apporté une nouvelle énergie, un nouveau souffle à un monde musulman devenu un peu fatigué. Et donc, il voyait dans leur énergie, leurs aspects masculins, un atout majeur. Et puis, il était très concerné, même selon Haywood, un peu obsédé par l'idée du fait que c'était un empire de ce qu'on appelle les Ghazis, c'est-à-dire les guerriers saints. Donc, l'aspect de la motivation religieuse des Ottomans, venus d'un coin obscur du monde musulman, c'est quelque chose sur lequel il insiste beaucoup. Donc, l'empire des Ghazis, c'est une formule qui est souvent associée avec lui. À cette vision hautement idéologique, on a commencé à apporter des critiques progressivement parmi des historiens turcs et autres. Finalement, vers la deuxième moitié du XXe siècle, on commence aussi à avoir un apport venu des sciences sociales, notamment par Rudi Lindner, qui lui a voulu voir l'émergence de l'État ottoman comme quelque chose qui avait à voir avec le rapport entre nomades et sédentaires. Donc, c'est une vision assez typiquement anthropologique du milieu du XXe siècle. Et puis, on a la dernière contribution d'envergure sur ce sujet de l'émergence des Ottomans de notre collègue Jamal Kafardar de l'Université de Harvard, entre deux mondes. Et lui, en fait, il a à la fois fait le bilan des théories existantes et il a aussi essayé de nous expliquer comment, en fait, les Ottomans jouaient entre ces différentes traditions, les Seldjouks, les Byzantins, et voir même quelques restes de la tradition mongole qui passaient par les îles Khanides qui étaient présents, donc comme voisins au moment de l'émergence de l'État ottoman sur Osman, et aussi sur celui qui est le premier à vraiment avoir laissé des traces concrètes et contemporaines, qui est donc Orhan, qui était le successeur d'Osman. Donc là, vous aviez des pièces d'Orhan qui sont donc, entre autres, les témoignages qu'on a, tandis que pour Osman, tout est en quelque sorte construction rétrospective. Alors, le système ou l'État ottoman, bien sûr, comme tout État, avait une fondation militaire. Alors, Robert Montrond, dans une contribution qu'elle a apportée à l'Académie des Belles-Lettres, nous a expliqué ça d'une façon assez économique. Il nous a dit, donc, là, vous voyez, que le recrutement de l'armée du Sultan s'est d'abord effectué au sein de la tribu d'Osman et de ses tribus alliées. Puis, on a procédé par l'embrigadement des prisonniers acceptant de se convertir. Et puis, il y a la formation de nouvelles troupes yénitchéri, ou qu'on appelle donc le corps des janissaires. Et alors là, il s'agit d'un corps qui n'est pas d'origine uniquement turque, mais qui est d'origine assez diverse. Et donc, progressivement, il y a une complexité qui va s'affirmer dans la formation de cette force militaire des Ottomans. Alors, les Ottomans, comme je vous ai dit, ont souffert un choc au tout début du 15e siècle. Donc, ça, c'est le moment de Sultan Bayezid. Et à ce moment-là, il y a un affrontement entre les Ottomans et un grand conquérant venu de l'Asie centrale, qui est Timur ou Tamerlan. Alors, qui, lui, donc, a procédé à une conquête un peu tous azimuts. Il a donc son royaume qui est centré sur des régions comme Samarcande et Bokhara. Vous voyez qu'il a fait des expéditions et des conquêtes sur le plateau iranien, et y instaurant aussi une présence timouride. Il a fait la conquête brièvement de Delhi, mais il a décidé de se retirer de l'Inde. Et puis, vous voyez aussi qu'il avait des confrontations vers l'Est, hein, et notamment, il y a eu donc cette bataille à Ankara contre les Ottomans, où les Ottomans ont encaissé une défaite. Leur sultan a été pris en tant que prisonnier, et c'était une grosse humiliation. Alors, le résultat de cette humiliation, c'est néanmoins un peu paradoxal, parce que les Ottomans vont donc recommencer à partir de cette défaite en prenant quelques éléments de la culture timouride. Donc, ils deviennent, malgré eux, en quelque sorte, des admirateurs aussi du fonctionnement de Timur et des Timurides. Alors, donc, l'historienne américaine Linda Darling, qui a abordé un peu ces questions, nous dit donc, vous voyez que le 15e siècle a vu finalement le passage d'une principauté à un empire, disons, elle dit world class empire, donc vraiment un empire qui atteint un standard à l'échelle mondiale. Alors, bon, ça commence avec cette attaque dévastatrice de Timur en 1402. Il y a donc la fragmentation de ce qui existait des domaines ottomans, mais puis reconstitution, défaite des croisés en 1444, prise de Constantinople, des guerres contre Venise et la dynastie Akkoyunlu d'Iran, et puis donc tout ça est accompagné par le développement d'une littérature politique et une culture impériale. Et cette culture impériale, donc, va puiser finalement, pas seulement dans la culture byzantine, pas seulement dans la culture seldjouk, bien sûr, mais aussi dans la culture timouride. Et derrière la culture timouride, il faut dire, se cache aussi la culture mongole. Donc, même si, en termes strictement dynastiques ou d'ascendance, les Ottomans n'ont rien à voir avec ces dynasties-là, mais néanmoins, il y a un effet, il y a une influence qui va se jouer sur eux. Alors, donc, au XVIe siècle, c'est en quelque sorte le grand moment de l'Empire ottoman. Et on va donc essayer de faire un petit bilan sur la question de la taille en termes démographiques de cet empire-là. Alors, j'ai pris donc quelques passages d'un article qui a été publié dans les Annales par l'historien Ömer Lütfi Barkan, qui a donc fait un compte-rendu pour apporter le point de vue ottoman sur la Méditerranée de Brodel. Donc, ça, il s'agit de ça. Et là, vous voyez qu'il commence en donnant les chiffres de Brodel sur la démographie de l'époque de Philippe II, donc deuxième moitié du XVIe siècle. Et il nous dit que, selon Brodel, le bloc A, Espagne, Portugal, France et Italie, dans l'ensemble, c'est à peu près 37 à 38 millions. Et puis, l'Empire ottoman, Turquie d'Europe, d'Asie, Égypte et Afrique du Nord, c'est 20 à 22 millions. Ça, c'est selon Brodel. Et alors, tandis que Barkan, qui avait pas mal travaillé sur ce que lui, il appelait les recensements, mais en réalité, ce n'était pas des recensements, c'était des données sur la fiscalité, il a donc proposé un chiffre beaucoup plus élevé. Et il a dit que l'Empire ottoman compte non pas de 20 à 20 millions d'habitants, chiffre de Fernand Rotel, mais 30 et peut-être même 35 millions vers la fin du XVIe siècle. Il y a eu beaucoup de débats après. J'ai moi-même essayé de faire quelques calculs pour le tout début de l'époque de Soleiman. Et voilà les résultats approximatifs, et je parle toujours sous contrôle des vrais spécialistes de l'histoire ottomane. Donc, vous voyez que si je ne me trompe pas, il y avait donc une population au début du règne de Soleiman autour de 15 millions, pardon. Et puis, donc, il nous semble qu'à partir de ça, les chiffres de Brodel ne sont pas absurdes. D'ailleurs, on sait qu'il y avait une expansion démographique considérable dans au moins certaines parties de l'Empire ottoman. Cela a été donc démontré par Michael Cook et autres. Mais passer de 15 millions à 30 millions nous semble peu probable. Donc, je pense que, et je ne suis pas le seul, je pense que même les spécialistes qui ont édité l'histoire économique et sociale de l'Empire ottoman sont d'accord pour dire, en fin de compte, les chiffres de Barkan sont des exagérations. Il faut revenir vers le bas. Alors, donc, c'est une population considérable au niveau de taille. C'est un territoire assez divers. Divers, donc, écologiquement, en termes de type de territoire. Il y a toutes sortes de populations, il y a des montagnards, il y a des paysans, il y a des citadins. Donc, il y a plusieurs langues parlées, il y a plusieurs religions présentes. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de voir sur quel point de vue on dirait qu'au XVIe ou au XVIIe siècle, l'Empire ottoman n'était pas un empire. C'était aussi un État qui avait une grande armée. Et là, vous voyez quelques peintures ottomane du XVIe siècle. Et donc, à gauche, vous avez les campagnes de Soléman dans l'Hongrie. Et puis, à droite, c'est une peinture vers les années 1570. Et là, vous voyez assez clairement la présence des armes à feu. Donc, des armes à feu, la poudre à canon. Et donc, ces armes à feu qui sont apparemment assez important pour les Ottomans. Et on continue à discuter cette question. Quel est le rôle des armes à feu? Quel est le rôle des canons, mais aussi des fusils à mèche surtout? On a pas mal de données sur les participants dans l'armée qui étaient donc ceux qui ont manipulé ce type d'armes. Ici, vous aviez donc le livre de l'historien hongrois Gábor Ágoston portant sur les Guns for the Sultan, donc les canons et les armes à feu du sultan. On a aussi pas mal de données sur le fonctionnement de la production des Ottomans. Et d'ailleurs, on sait déjà qu'en 1453, des armes à feu, des canons étaient présents. Mais c'est surtout au début du XVIe siècle qu'on parle d'une importance plus considérable. Là, vous aviez une représentation européenne d'un janissaire avec son fusil à mèche. Et dans le livre de synthèse de Rhodes Murphy sur l'art de la guerre ottomane, il parle beaucoup, pas seulement, donc bien sûr, il y a les timars et la cavalerie et tout ça, mais aussi il parle de l'histoire des sièges, de comment on faisait la guerre concrètement en utilisant l'exemple de plusieurs campagnes. Alors, l'association avec les armes à feu était surtout poussée jusqu'à ses limites par un historien israélien, David Ayalon, qui était lui spécialiste des Mamelouks d'Égypte. Et je vous rappelle que parmi les grandes conquêtes de Sultan Selim dans les années 1510, il y avait donc la conquête du royaume Mamelouk, y compris le Hédjaz et l'Égypte, c'est la Syrie qui faisait partie de ce royaume-là. Alors, donc, Ayalon nous a proposé une thèse assez forte et discutable, mais c'est une thèse quand même. Alors, là, vous voyez un compte-rendu du livre d'Ayalon, et dans lequel on nous dit que Ayalon insiste beaucoup sur le fait que les Mamelouks avaient une attitude envers la guerre qui était très différente par rapport aux autres. Donc, les Mamelouks avaient, selon lui, un conditionnement socio-psychologique hein, qui était lié avec le fait qu'il s'agissait d'une société hautement hiérarchique et où, en fait, la formation en tant que cavalier était une espèce de privilège des gens qui étaient les plus haut placés dans la société. Donc, du coup, selon Ayalon, même si les Mamelouks étaient exposés aux armes à feu, ils l'ont globalement pas rejeté, mais tenu ses armes à une distance. Et donc, du coup, il ne voulait pas vraiment s'entraîner pour utiliser les armes à feu contre les Ottomans. Et donc, du coup, le résultat, c'est que quand les deux armées se trouvent face à face dans les années 1510, les Ottomans vont donc totalement détruire la force mamelouke et vont prendre contrôle de leur royaume. Donc voilà la thèse d'Aélon. Donc les mamelouks qui ne s'adaptent pas et les Ottomans qui sont donc pragmatiques, des modernisateurs pour ainsi dire, et qui donc vont écraser les voisins à cause de ça. Ça a été débattu par la suite. Par un certain nombre d'auteurs. Il y a aussi quelques adhérents, jusqu'à un certain point, le grand spécialiste des Mamelouks en France, Jean-Claude Garcin, a suivi dans les pas de Ayalon, mais d'autres ont aussi critiqué cette thèse. On peut aussi se poser la question, donc maintenant, on tourne vers le deuxième de ces trois états que nous sommes en train de considérer dans la suite de Hodgson. Et ça, c'est le cas des Safavides. Alors, l'origine des Safavides est très différente par rapport aux Ottomans. Il s'agit en fait d'une famille qui a pas mal de prestige, mais surtout dans le champ religieux, car c'était une famille, une lignée de soufis. C'était un ordre, comme on appelle l'ordre Safavide des soufis, qui était centré sur un endroit, Ardabil, dans le nord de l'Iran. Et puis, ont déjà été présents et connus pendant le 15e siècle, mais c'est au tout début du 16e siècle qu'ils vont donc faire irruption dans un Iran où les dynasties qui avaient dominé la deuxième moitié du 15e siècle se trouvent affaiblies. Et sous le règne de Shah Ismail, qui était donc, vous voyez ici, qui est présenté comme Ismail Sophie, le fait qu'il était associé avec un ordre Sophie, Sophie c'était même connu en Occident. Alors, il va prendre contrôle du plateau iranien et rapidement mettre en place un système assez particulier. Alors, tout d'abord, ses adhérents sont ce qu'on appelle les Qazilbash, ou les têtes rouges. Ce sont donc souvent des Turcomans. Et ils sont souvent donc organisés dans des systèmes, disons, grosso modo, on peut appeler tribal. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas entièrement différent par rapport au tout début de l'État ottoman, sauf que il y a donc à la tête du système cette présence de la dynastie Safavide. Et puis, une fois qu'ils ont fait la conquête de l'Iran, ils vont donc arriver à une espèce de condominium avec les élites urbaines. Et donc, ces élites urbaines étant des Perséphones, on va donc essayer d'arriver à un compromis entre ces différents éléments. Alors, Shah Ismail s'est considéré comme un chef charismatique, presque invincible. Donc, il est porté un peu par ça. Mais il va donc quand même souffrir une lourde défaite en 1514. Et cette défaite, c'est donc contre les Ottomans. Et je vais revenir dans un instant à ça. Alors, quelle est l'importance et la taille de ce royaume de Shah Ismail? Difficile de dire, parce que en fait, on n'a pas d'archives semblables aux archives des Ottomans. Mais si vous regardez les deux éléments ici. Donc, si on compare les villes à gauche de l'Empire ottoman avec les villes de l'État safavide, vous voyez que l'urbanisation chez les Safavides est beaucoup plus faible. Tabriz est la ville la plus grande à l'époque de Shah Ismail, qui compte donc 80 000 habitants, tandis que le Caire et Istanbul sont beaucoup plus grands. Puis, on a Hormuz, on a Isfahan, on a Shiraz, on a Kashan, et ainsi de suite. Donc, des villes assez moyennes. Alors, pour la population globale, c'est extrêmement difficile vraiment de donner un chiffre. Angus Madison, historien de l'économie, mais qui fonctionnait à une échelle globale, nous a proposé un chiffre dans le genre 4 à 5 millions pour le 16e siècle. Il y a des gens qui proposent un chiffre un peu plus élevé, dans le genre 6 millions ou quelque chose de semblable. Il y a un article récent écrit par trois auteurs iraniens, vous voyez ça en bas, et eux sont beaucoup plus expansifs. Ils pensent que vers la fin du 16e siècle, la population de l'État safavide allait jusqu'à 10 millions, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'adhérents à ce genre de chiffres. Donc, il faut vraiment, je crois, rester autour de 5-6 millions. Donc, du coup, vous voyez que c'est beaucoup plus petit que l'État ou l'Empire ottoman. Mais ce n'est pas forcément ça qui compte quand on est en train de parler d'une bataille. Hein, parce que vous voyez qu'en fin de compte, ce n'est pas toute la population qui va se mettre sur le champ de bataille. Vous voyez ici un peu l'extension des territoires des Safavides. Il y a des régions qui sont donc disputées. Sur le nord-est, il y a la région de Khorasan, où il y a toujours des disputes avec les sultans Shaybani et autres de l'Asie centrale. Puis il y a sur l'ouest, la région qui est donc disputée avec les Ottomans. Finalement, vous aviez donc le plateau iranien. qui n'est pas connu pour une énorme densité démographique, qui d'ailleurs l'agriculture n'est même pas capable vraiment de soutenir une population extrêmement dense. Mais néanmoins, il s'agit de savoir comment en fait on concevait la guerre chez les Safavides. Est-ce que c'était aussi des gens qu'on peut classer comme des gens portés par la poudre à canon. Voilà donc une petite description dans l'encyclopédia Iranica de la bataille de Chaldiran, cette grande bataille d'août 1514 entre les Ottomans et les Safavides. Donc, 22 août 1514, Selim Atenish Chaldiran, et la bataille eut lieu le jour suivant. Lorsque les Ottomans sont arrivés, l'armée safavide, comptant environ 40 000 soldats, attendait sur place. Donc, il y a deux commandants ayant une connaissance de première main des tactiques ottomanes, et ils ont exhorté Ismail à attaquer immédiatement. Mais ils ont été grossièrement réprimandés par le courtisan Durmichan Shamlou et par le Shah, qui considérait qu'il était lâche d'engager un ennemi non préparé. Donc, idée d'honneur de ce qu'on appelle chez les Iraniens à l'époque Jawan Mardi, donc pas trop de pragmatisme. Cette erreur qui a permis aux Ottomans de préparer leur défense s'avérait coûteuse pour les Safavides. Après quelques succès initiaux contre l'aile gauche ottomane, Ismaïl décida de renouveler son attaque sur le centre et, ce faisant, joua droit dans les mains des Ottomans. Les unités des janissaires étaient stationnées au centre derrière une barricade d'affût de canon. Au fur et à mesure que les Safavides avançaient, les janissaires ouvraient le feu, soutenus par l'artillerie ottomane. Les forces safavides, en grande partie de cavalerie, furent bientôt en désarroi. Quand Ismaïl a réalisé l'ampleur de la défaite, il a rompu l'engagement et s'est enfui avec quelques 300 de ses partisans, donc pas beaucoup. Voilà donc une grosse défaite qui va aussi porter atteinte au prestige de Shah. Il va continuer à régner pendant 10 ans, mais entre 1414 et 1424, il est assez affaibli et il a une espèce de manque de légitimité, justement à cause de cette bataille où on a oublié qu'il n'était pas vraiment invincible ni de loin ni de près. Alors, est-ce que les Safavides sont restés là? Alors là encore, comme je vous ai dit, on a quelques problèmes car les données pour écrire l'histoire des Safavides ne sont pas aussi riches que pour les Ottomans. Mais néanmoins, on a quelques ouvrages d'importance, notamment donc ici on a l'ouvrage de Haneda Masashi, historien japonais formé en France avec Jean Aubin. Et dans son livre, il nous démontre en fait l'évolution des Safavides, en commençant avec une armée qui était formée par ces Turcomans, ces tribus de têtes rouges. Et puis, il y a une lente évolution, il y a l'incorporation de plus en plus d'esclaves, il y a aussi l'incorporation de plus en plus de gens divers qui n'étaient pas forcément des Turcomans. Finalement, il y a aussi l'adoption de nouvelles technologies. Et l'autre livre de Klaus Röhrbon aussi nous donne un contexte plus large pour ce qui était le rapport entre centre et province dans le monde des Safavides. Donc, du coup, à la fin du XVIe siècle, les Safavides aussi vont évoluer dans le sens d'un système qui va adopter au moins en partie les armes à feu. Donc là, vous voyez par exemple à droite une peinture qui démontre une attaque par les Safavides contre les Portugais dans le golfe Persique. Et en fait, vous voyez que les deux côtés ont des arcs et des flèches et des armes à feu. Hein, donc les Safavides aussi ont changé. Et en général, on sait que c'était un peu la direction de l'évolution. Donc, on peut dire que certes, il y a une influence des armes à feu, même si, disons, il n'y a pas eu une transformation totale du système militaire safavide, mais reste un problème. C'est-à-dire, faut-il traiter l'Iran safavide comme empire ou non? Et là, vous voyez, je ne suis pas le seul à me poser cette question. Ça a été posé par un certain nombre d'autres chercheurs, y compris Rudy Mathey, un chercheur néerlandais qui travaille sur l'Iran safavide. Et alors, donc, comme il dit ici dans le résumé de cet article en anglais, le résumé français, il dit que jusqu'à maintenant, l'État safavide s'est vu attribuer le statut d'empire de poudre à canon. Donc, vous voyez la formule de Hodgson. Pareil aux États ottomans et moghols. Mais il voit des différences. Il voit des différences de côté structure. Et en fait, il pense qu'il y a plus de cohérence interne chez les safavides. Autrement dit, il y a moins de diversité. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui sont les faiblesses en termes de ressources économiques. Là, on a déjà vu qu'il y a le problème de la démographie. 6 millions à peu près pour l'Iran contre, disons, 22 ou 20 millions pour les Ottomans. Donc, il y a un État qui fait trois fois la taille de l'autre. Bon, disons que dans la même espèce, parfois, il y a les caniches et les bergers allemands. Ils sont tous les deux des chiens. Ici, on est dans une situation où il faut probablement poser la question d'une autre manière. Et quant à la diversité, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a certes un certain niveau de diversité chez les Safavides, surtout vers la fin du 16e, début du 17e, car il y a au niveau religieux, alors les Safavides n'ont pas beaucoup de tolérance envers les sunnites, ils deviennent de plus en plus des chiites duodécimains eux-mêmes, des isna'ashri, mais il y a quand même quelques populations juives ici et là, il y a quelques populations zoroastriennes ici et là dans des villes, et puis il y a aussi des géorgiens et surtout les arméniens qui font partie des domaines de Shah Abbas à la fin du 16e, début du 17e siècle et qu'il va installé même dans la ville capitale. Quand j'ai parlé des marchands, des réseaux de marchands arméniens, j'ai traité cette question plus en détail. Donc, côté religion et côté ethnique, il y a une certaine diversité, mais disons que c'est un domaine beaucoup plus compact, beaucoup plus restreint et, en fin de compte, beaucoup moins divers que le cas ottoman. Donc, voilà la question qui se pose et on a donc, bien sûr, des points de vue qui sont divergents, les uns voulant classer l'Iran safavide entre les empires et les autres montrant une certaine réticence. Je passe maintenant au troisième cas que je vais traiter d'ailleurs d'une façon un peu plus rapide. Je vais traiter ça d'une façon plus rapide car c'est mon sujet pour le sixième point. Donc, je vais parler essentiellement de l'Empire moghol ou timouride. Donc, vous voyez que au niveau d'ailleurs de la chronologie, les Safavides ont duré un peu plus que deux siècles, entre le début du 16e et vers les années 1720. Les Moghols ont une carrière un peu plus longue, c'est-à-dire si on parle d'une façon strictement technique, trois siècles et peu, entre le début du 16e et le milieu du 19e. En réalité, déjà à partir de la deuxième moitié du 18e siècle, les Moghols ou les Timourides ne comptent pas pour beaucoup. Mais là encore, les origines sont assez différentes par rapport aux Safavides et aux Ottomans. Les Ottomans donc, ont des origines relativement obscures. Les Safavides ont des origines dans un contexte religieux et les Moghols en Inde ont quand même une ascendance, une double ascendance prestigieuse. Ils sont tout d'abord, ils ont une ascendance directe qui va jusqu'à Timur, car le premier des conquérants moghols à s'installer en Inde, Zahiruddin Muhammad Babur, était donc directement descendu de Timur. Mais puis, il y a aussi, et ça c'est un peu plus compliqué, une ascendance par la voie féminine que vient de Genghis Khan. Donc, ils ont aussi ce lien, pas seulement, disons, une affirmation, mais vraiment une réalité d'une présence, d'une tradition tchingizide chez eux. Alors, les Moghols arrivent en Inde du Nord. Babur a fait quelques tentatives avant, dans les années 1510. Avant, il s'était installé à Kaboul. Mais c'est en 1526 qu'il va donc faire un pas décisif avec la défaite qu'il va infliger à la bataille de Panipat au sultan Lodi de Delhi. Et on a donc quelques données sur ça, notamment cette espèce d'autobiographie, ego document de Babur, le livre de Babur, Baburnameh, Baqa-i-Baburi. Alors donc, ce texte, qui a été par la suite illustré vers la fin du XVIe siècle, quand ça a aussi été traduit en persan, parce que c'est un texte qui est écrit tout d'abord en turc oriental. Là, vous voyez déjà sur le champ de bataille une présence de canons. Et Babur nous dit d'ailleurs qu'il a utilisé des canons pour en fait avoir un effet de surprise. Et apparemment, il avait deux personnes qui étaient dans son armée qui étaient des spécialistes. Il y avait un certain Oustad Ali Roli et puis un certain Mustapha le canonnier. Et ces gens-là ont donc utilisé avec pas mal d'effets les canons contre les forces des sultans Lodi. Alors, ce n'est pas comme si en Inde, à l'époque, on ne connaissait pas les armes à feu, mais ils n'avaient pas tellement l'habitude. Et surtout, l'armée Lodi, qui avait une présence importante d'éléphants, s'est mise en panique car les éléphants supportaient mal le bruit des canons. Donc, du coup, les armes à feu ont joué un rôle, certes, peut-être pas un rôle décisif, dans le succès de Babur en 1526. Et d'ailleurs, si on regarde son texte, il y a plusieurs reprises dans lesquelles il va revenir sur cette question de canon. Il a, par exemple, des histoires, des anecdotes assez amusantes portant sur ce maître Oustad Ali Koli, qui est spécialiste de la fonte du canon. Ici, vous voyez un incident où il va essayer de produire une pièce, un canon, et puis ça marche pas. Et Oustad Ali Koli, dans un état difficile à décrire, voulait se jeter au beau milieu du cuivre en fusion. Et donc Babur le caressait, lui fit donner une robe d'honneur et parvint ainsi à le calmer. Mais petit à petit, on commence à utiliser ces canons et ces armes à feu. C'est aussi parce que tout le long du XVIe siècle, il y a plusieurs voies par lesquelles les armes à feu vont arriver en Inde. Les Européens. Les Européens qui apportent cette technologie. Parfois, il y a des renégats européens qui vont se mettre à travailler pour les sultans musulmans. Et puis, il y a aussi des personnages assez curieux comme celui que vous voyez ici, Khaja Safar Salmani, ottoman d'origine italienne, qui était donc natif de Otranto, et donc dont la carrière a été discutée un peu dans le livre de Giancarlo Casale, que vous voyez ici, et qui est donc, bon, par ironie d'histoire, il a été lui-même tué quand il préparait le siège d'une forteresse portugaise. Et là, vous voyez que les gens qui étaient à l'intérieur de la forteresse ont tiré sur lui. Desparassem da fortaleza algumas bombardas, et donc qui a fait sauter sa tête, tomando pela cabeça, et donc le chroniqueur Couto nous dit que il espère qu'il a passé toute l'éternité dans l'enfer, car c'était un chrétien devenu musulman et qui a aidé en plus les musulmans contre les chrétiens. Donc, progressivement, on utilise de plus en plus d'armes à feu, de poudre à canon. Vers la deuxième moitié du XVIe siècle, quand, là encore, le royaume de Babur va finalement devenir un empire sous Akbar. Si vous regardez les peintures de l'époque d'Akbar, quand il fait ses campagnes, soit dans le Rajasthan contre les Rajput, soit ailleurs dans l'Inde centrale, il y a toujours une présence de canons, toujours une présence d'artillerie et quelquefois aussi des fusils à à Mesh dans cette présence. Là, vous voyez donc quelques peintures de l'époque d'Akbar où il y a des mines, il y a des canons qui sont bel et bien présents. Mais il ne faut aussi pas oublier que la réalité, c'est que cet empire que Akbar était en train de consolider était d'une taille qui était très, très différente par rapport aux Safavides. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à retenir. Et donc, forcément, les armées étaient aussi beaucoup plus compliquées, beaucoup plus diverses. Bien sûr, il y a, comme on voit, soit dans la réalité, soit dans les rêves. Là, vous voyez, à droite, c'est un rêve de l'empereur Jahangir, représenté sur une peinture, et à gauche, c'est la cour de Jahangir. Dans ces cours, il y a bien sûr beaucoup de circulation, des gens qui font des allers-venus entre ces différents royaumes, mais néanmoins, ces royaumes ont gardé leur spécificité. Et parmi leurs spécificités, il faut quand même aussi compter la taille. Selon le grand historien de l'Empire moghol, Irfan Habib, l'Empire d'Akbar avait compté entre 107 et 115 millions de personnes. À mon avis, c'est sûrement une exagération. Vous voyez que tout le monde a un peu tendance d'exagérer la taille de, entre guillemets, leur empire. Alors, moi, je pense qu'il faut revenir vers un chiffre plutôt dans le genre 75 à 80 millions. Mais même si on est là avec ce chiffre-là, vous voyez qu'on est dans une espèce de disproportion assez considérable entre l'Iran Safavide avec ses 6 millions, en gros, l'Empire ottoman à la fin du XVIe siècle avec ses 22 millions, et puis ses 80 millions. C'est beaucoup, beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué aussi au niveau du recrutement de l'armée et ainsi de suite. Donc, si on regarde les derniers ouvrages qu'on a publiés sur la guerre chez les Moghols et aussi le livre de l'historien d'Aligarh, Ekhtedar Alam Khan, portant justement sur poudre à canon et les armes à feu, en général, les gens ont tendance à penser que même avec cette présence, ce n'était pas décisif pour les Moghols. Et ce qui comptait beaucoup plus pour les Moghols, c'était finalement les chevaux et la cavalerie. C'était ça qui comptait et c'est comme ça qu'en fait, c'était l'essentiel de leur façon de faire la guerre. Et donc, d'ailleurs, une de mes élèves, Soba Dayal, vient de faire un article extrêmement intéressant sur les soldats moghols en regardant en fait les archives où on a donc l'identification par document, par ethnicité, etc. de chaque soldat, qu'il soit payé correctement. Hein, là, vous voyez par exemple un document portant sur un certain Malik Ahmad, qui était un Rajput, mais un musulman en même temps. Et il y a une description physique de lui sur son front, sur quel genre de mine il avait, de moustache, de barbe, etc. Et donc, si on regarde ces documents-là, on a l'impression qu'en réalité, ce qui comptait finalement pour les Mongols, même si, comme vous voyez, ça, c'est un champ de bataille chez les Moghols en 1658, au moment de la guerre civile. Donc, il y a des éléphants, il y a des canons présents, mais finalement, il semble que la poudre à canon chez les Moghols, en tout cas, n'était pas tout à fait au centre de la guerre ou au centre de la façon de faire la guerre. Donc, vous voyez une situation contrastée où on peut donc, commencer avec les Ottomans, ou semble-t-il, même si on n'accepte pas le point de vue tout à fait exagéré d'Ayalon, il semble néanmoins que les armes à feu ont joué un rôle plus considérable chez les Ottomans. Chez les Safavides, les armes à feu ont joué un rôle très peu important au début du siècle, mais finalement, il y a eu une adoption, une adaptation au cours du siècle. Et puis, chez les Moghols, ils sont présents, mais en fin de compte, ce n'est pas l'aspect décisif de la façon de faire la guerre et de façon de lutter. Et donc, D'ailleurs, c'est pour cela que finalement, au XVIIIe siècle, quand on a finalement un moment important, quand il y a un gros conquérant qui va sortir de l'Iran, après la chute des Safavides, qui est donc Nader Shah, avec son armée qui est beaucoup plus centrée sur les armes à feu, il va donc infliger, comme vous voyez ici, une lourde défaite à l'armée moghole sur le champ de Karnal en 1739. Voilà, donc je vais conclure sur ce point-là pour vous dire donc en gros que pour moi, bien sûr, cette question de poudre à canon, des armes à feu, a son importance. D'ailleurs, j'ai déjà par le passé consacré un certain nombre de mes articles à cette question, soit moi-même, soit aussi en collaboration avec le grand spécialiste de l'histoire militaire européenne, Geoffrey Parker. Mais néanmoins, je pense qu'il faut savoir distinguer entre ces trois États à plusieurs niveaux, mais aussi au niveau de leur attitude vers l'importance de la poudre à canon. Donc, voilà pour ce qui est de l'hypothèse de M. Hodgson, mais qui reste néanmoins un travail, un ouvrage tout à fait intéressant et important. Je vous remercie de votre attention.